Comment contrer la deuxième vague épidémique? Aujourd'hui, c'est parmi les 15-44 ans que le virus circule le plus, nous dit l'infectiologue Odile Launay. Pas besoin en revanche d'obliger les jeunes enfants à porter le masque, rappelle le pédiatre Robert Cohen. Vivre avec le nouveau coronavirus est un défi pas comme les autres, mais le monde s'adapte, note le FMI. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international, la récession sera moins sévère que prévu en 2020, mais la reprise s'essouffle déjà. Un accord qualifié d'historique sur les rémunérations et carrières des chercheurs, avec près de 650 millions d'euros sur 7 ans, mais le projet de loi sur la recherche a ses détracteurs, nous les entendrons. Au moins 12 militaires maliens tués dans une attaque dans le centre du Mali. Les affrontements entre Peul et Dogon se succèdent dans la région depuis 2015. Éclairage de Nadrène Charbonnier. Alors qu'Emmanuel Macron doit intervenir à la télévision demain pour tenter de mobiliser les Français face à la deuxième vague épidémique, un rapport pointe des défauts manifestes d'anticipation, de préparation et de gestion de la crise sanitaire. Les autorités ont notamment péché en matière de communication, dit ce rapport dirigé par le professeur de médecine Didier Pittet. Il regrette un manque de pédagogie sur la pertinence des mesures prises mises en œuvre, un appel réduit à la responsabilité des citoyens et une communication insuffisamment tournée vers les jeunes. Les jeunes qui sont actuellement les plus touchés par le virus. Selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France, le taux d'incidence du virus augmente dans toutes les classes d'âge, mais en proportion, les plus contaminés sont les 15-44 ans. Les nouvelles politiques des tests massifs ont permis de valider cette hypothèse, nous explique Odile Launay. Elle est infectiologue à l'hôpital Cochin de Paris.
Maintenant qu'on teste en population générale, et en particulier auprès des jeunes, eh bien, ils ont une incidence de la maladie qui est très élevée et qui est lié au fait qu'ils ont des contacts entre eux très fréquents qui favorisent la dissémination, la circulation du virus, ce qui est tout à fait compréhensible. On comprend très bien que lorsqu'on est à 50 dans un bar, même dans un logement privé, sans ouvrir les fenêtres et sans masque, le virus va circuler très facilement et on va avoir un nombre de cas très important. Et on comprend que c'est soit difficile pour eux de changer complètement leur mode de vie, mais ils doivent bien comprendre qu'ils sont potentiellement infectés, potentiellement asymptomatiques et qui doivent vraiment être très vigilants lorsqu'ils vont être en contact de gens plus âgés qui, eux, s'ils sont infectés, sont plus à risque de faire des formes graves, d'être hospitalisés, voire hospitalisés en réanimation, et quand il s'agit des très âgés, plus à risque de décès. Donc c'est ça le message, je pense, qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est que les jeunes, de façon exceptionnelle, ils vont présenter une forme grave, donc ça reste exceptionnel. Par contre, ils ont une responsabilité si... Quand ils voient des plus âgés, ça peut être leurs parents, leurs grands-parents, ils sont pas vraiment très vigilants avec le port de masque et le lavage des mains. Je crois que c'est vraiment ça le message aujourd'hui.
L'infectiologue Odile Launay répondait à Arnaud Rozac. Voilà pour les jeunes. Et quid des plus jeunes? On sent actuellement une certaine fébrilité chez les soignants qui redoutent un engorgement des hôpitaux et certains professionnels de santé qui réclament dans les médias plus de mesures sanitaires se demandent pourquoi on ne fait pas porter un masque aux enfants dès 6 ans, comme en Italie ou en Espagne. Alors c'est vrai qu'on entend citer les écoles et universités comme foyers de contamination, mais le pédiatre Robert Cohen appelle ses confrères non spécialistes à se pencher d'un peu plus près sur les chiffres avant de faire des propositions inappropriées. Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie.
Effectivement, il y a eu des clusters, un nombre infinitésimal à partir des écoles, alors qu'ils ne portent pas de masque, et un nombre vraiment très significatif dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Donc, aujourd'hui, avec la situation actuelle, quand on sépare les écoles, des collèges et universités, il y a très peu de clusters pédiatriques. Maintenant, on continue, nous, contrairement aux gens qui proposent n'importe quoi, à prélever très fréquemment les enfants. Eux, ils regardent et nous, on fait. C'est ça un peu la différence, hein. Et le nombre d'enfants qui ont une PCR positive avant 10 ans est 2 à 5 fois inférieur à celui de l'adulte, sans masque. D'accord ? Des enfants de moins de 10 ans sans masque, ils ont le même risque qu'un adulte avec masque. Ils ont un masque invisible. Ils ont déjà le masque. C'est comme si je demandais aux adultes de porter 2 masques. Nos services aujourd'hui, alors que le nombre de patients augmente de façon extrêmement inquiétante chez les adultes, aujourd'hui, il y a très peu d'enfants hospitalisés pour corona. Plus l'enfant est jeune, moins il est contaminant. Et toutes les études internationales montrent que c'est vers 10-11 ans que le taux de portage augmente progressivement pour atteindre celui de l'adulte jeune.
Le pédiatre Robert Cohen, des propos donc de nature à rassurer les enseignants du primaire. Ils sont pourtant 81% selon une enquête du syndicat SNUIPP-FSU à se sentir mal, voire très mal protégés en classe face au Covid-19. La crise sanitaire ne doit pas avoir raison des transmusicales de Rennes. La direction du festival a prévu un protocole sanitaire adapté à chaque salle et des spectacles assis. 42 groupes et 2 compagnies de danse participeront donc à cette 42e édition du 2 au 6 décembre, soit moitié moins que d'habitude. Ils ont pris l'engagement de mieux se coordonner face à l'épidémie de coronavirus. Réunis en conseil à Luxembourg, les ministres des Affaires européennes se sont mis d'accord sur une cartographie commune du risque épidémiologique par région, Angélique Boin.
Il y aura désormais un code couleur européen pour identifier les régions les plus touchées par la pandémie. Jusqu'à présent, chaque capitale appliquait ses propres critères, avait sa propre cartographie. Les 27 devront désormais communiquer régulièrement leur nombre de cas par centaines de millions d'habitants par région, le nombre de tests effectués et leur taux de positivité. Et cela afin que le Centre européen de prévention des maladies publie une carte partagée par tous des zones rouges, oranges ou vertes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on aura désormais le même code couleur que chaque capitale appliquera des restrictions de voyage identiques d'un pays à l'autre, de type quarantaine ou test obligatoire. La gestion des frontières reste une prérogative nationale bien gardée. Là-dessus, il va donc y avoir une autre négociation. Les 27 ministres des Affaires européennes se sont néanmoins engagés ce matin à éviter toute fermeture de frontières, à privilégier plutôt les tests aux quarantaines et à favoriser la circulation des frontaliers. C'est une étape accouchée, il faut le dire, dans la douleur. Le rétablissement de la libre circulation dans l'Union partout sans autre entrave que des mesures sanitaires coordonnées ne semblent pas pour demain.
Angélique Boin à Bruxelles. La ministre de la Recherche se réjouit. Frédérique Vidal qualifie d'historique l'accord signé avec 3 syndicats sur l'amélioration des rémunérations et des carrières des chercheurs. Une enveloppe de près de 650 millions d'euros est dégagée sur 7 ans. Mais le projet de loi Recherche, actuellement examiné au Parlement, ne fait pas l'unanimité. Quelques centaines de chercheurs, maîtres de conférences ou encore étudiants se sont retrouvés cet après-midi à Paris pour dénoncer le projet de loi. D'après eux, Stéphane Genest, il aggraverait encore plus les conditions dans lesquelles il travaille ou étudie.
Derrière cette large banderole où est écrit en lettres majuscules « Ensemble pour des postes et des moyens dans les facs », ils sont quelques centaines à faire entendre leur mécontentement et leurs revendications. L'élément déclencheur de cette mobilisation, le projet de loi recherche. Alors que l'université connaît déjà bien des difficultés en cette rentrée au contexte particulier, Vincent Guay, maître de conférence en sociologie, ne peut faire qu'un constat, il existe un malaise dans les facultés.
Les collègues qui font des burn-out, les collègues qui arrêtent, les collègues qui veulent faire autre chose alors que certains ont galéré pendant des années avant d'arriver à travailler dans l'université. C'est une société qui se fout globalement de ses salariés. J'en ai vu plusieurs dizaines et c'est quelque chose qui n'est jamais dit, pas traité comme un problème, qui ne va pas aller en s'arrangeant.
Un projet de loi qui interroge autant qu'il inquiète. Pascal Epsi, pancarte dans une main et drapeau dans l'autre, est chercheur à l'université Paris Diderot.
Le manque de locaux, le manque d'enseignants, il est aussi lié aux facteurs démographiques. Alors il faut savoir ce qu'on veut faire avec l'éducation en France. Est-ce qu'on veut véritablement proposer un service public qui permet à tous les gens qui veulent et qui ont envie de s'investir dans des études d'en faire? Ou est-ce qu'effectivement, on va finir par avoir un système d'université privée puisque l'université publique ne va plus pouvoir remplir son rôle?
Dans les rangs du cortège, des étudiants sont également venus soutenir leurs professeurs. Ils sont directement concernés par ce projet de loi et eux aussi partagent cette inquiétude. C'est le cas de Tanguy, étudiant en première année de philosophie.
Le manque de moyens en général, que ce soit du personnel administratif et du personnel éducatif qui en fait sont complètement surmenés. Et du coup, on n'a pas le temps de s'occuper des étudiants convenablement en fait. Et donc ça déteint évidemment sur moi. J'ai rarement été aussi stressé en fait. Vraiment, c'est très très stressant.
Et face à cette mobilisation qui dure depuis déjà plusieurs semaines, le gouvernement tente de calmer cette fronde. L'État s'est ainsi engagé à faire passer le nombre de professeurs des universités de 15 à 18 000 dans les prochaines années.
Stéphane Genest. Gérald Darmanin veut montrer aux policiers qu'il est attentif à leurs conditions de travail. Le ministre de l'Intérieur reçoit en ce moment les syndicats de policiers. La profession est à cran après une série de violences dont l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne et l'agression par balle de 2 policiers à Herblay. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale a continué aujourd'hui d'examiner le cas de Nezar Pastor Al-Watif. Poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes, il nie les faits qui lui sont reprochés. Il s'était lié d'amitié en prison avec Amedi Koulibaly et on a retrouvé ses empreintes sur deux armes du preneur d'otages de l'hyper-cacher. Hier, l'ancienne épouse de Nezar Pastor Al-Watif l'avait décrit comme ambigu et radical. Aujourd'hui, Florence Turm, plusieurs témoignages sont venus contrebalancer cette image.
Ils se sont connus en détention. Oui, on parlait de religion, mais tranquille, commence le témoin. Lui, c'est un pratiquant marrant, pas intégriste. Il aimait trop les femmes, ajoute-t-il en souriant. Nous, d'ailleurs, on disait qu'on était des musulmans détentes. Pour moi, c'était un clown. Il me faisait tellement rire, ajoute un autre co-détenu, sévèrement recadré par l'avocat général pour la suite de ses propos sur Charlie Hebdo. Ils l'ont en quelque sorte cherché, comme s'ils avaient tiré sur la branche et ils sont tombés. Une opinion que ne partage pas Nezar Pastor Al-Watif, qu'il n'a pas eu la parole hier, après les propos accusateurs portés par son ancienne épouse religieuse. Elle vient là avec sa cape de Batman, son porte l'accusé, et pendant deux heures, elle dit que des salades. Amedi Koulibaly, je lui ai demandé de me ramener une femme, mais il m'a ramené un problème. Je suis un peu en colère, poursuit-il d'une traite, débit de paroles rapides et grands gestes à l'appui. Je suis comme je suis, mais jamais de la vie j'ai tiré sur des gens, ni aidé à planifier quoi que ce soit. Moi aussi, je suis une victime collatérale de ce que ce bâtard a fait. Ce n'est pas possible qu'il ait été au courant une demi-seconde, ajoute sa nièce, même voix douce et enveloppante que sa mère, même amour pour son oncle, de 8 ans seulement son aîné, mon meilleur ami, précise-t-elle, quelqu'un d'essentiel à ma vie. Pour toutes les fêtes de famille, il était là, il répétait avec nous la prière en hébreu. Elle insiste sur ce respect mutuel des religions au sein de leur famille arc-en-ciel, comme l'appelle sa mère, balaye toute éventuelle duplicité suggérée par la partie civile et son témoignage achevé s'approche du box pour prendre un instant la main de l'accusé entre les siennes avant de quitter la salle.
Florence Thiam, dont vous pouvez retrouver les chroniques judiciaires sur franceculture.fr. Le FMI vient de présenter ses nouvelles prévisions économiques et on les décrypte avec vous, Anne-Laure Jumet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on commence tout de suite par la bonne nouvelle, Anne-Laure. La récession sera moins prononcée que prévu cette année.
Oui, avec un PIB mondial en baisse de 4,4% selon le Fonds monétaire international, soit 0,8 points de moins que ce qui avait été anticipé en juin dernier. L'institution constate un rebond plus rapide que prévu des principales économies de la planète. Au deuxième trimestre, les États-Unis, la zone euro et la Chine ont retrouvé des couleurs. À noter tout de même dans les pays émergents des prévisions plus sombres que prévues, par exemple en Inde ou en Indonésie, des pays très dépendants de secteurs durement touchés comme le tourisme.
Et pour l'an prochain, que prévoit le FMI ?
Eh bien, une reprise, mais cette dernière s'essouffle déjà, analyse le Fonds monétaire international, qui table sur un PIB mondial en hausse de 5,2%, soit 0,2 points de moins que sa prévision de juin dernier. Ça, c'est le scénario de référence, car le FMI envisage aussi le scénario du pire, des progrès plus lents que prévu dans la lutte contre le virus en matière de vaccins, de traitements. Et à ce moment-là, la croissance mondiale ne serait plus que de 2,2%. Comme le résume l'économiste en chef du FMI, l'ascension sera probablement longue, inégale, incertaine. L'un des éléments clés, souligne-t-elle encore, sera la distribution de doses de vaccins à tous les pays à des prix abordables. En attendant, le fonds appelle les pays à poursuivre leurs aides aux plus vulnérables, alors que la crise a accru les inégalités et anéanti les progrès en matière de réduction de la pauvreté dans le monde.
En ce qui concerne la France plus particulièrement, alors quelles sont les perspectives ?
Une croissance attendue à 6% l'an prochain, moins qu'espérée par le gouvernement qui table sur 8%, mais mieux que l'ensemble de la zone euro qui est à 5,2% dans les prévisions du FMI. Élément notable, la France est le pays où le rebond de la consommation a été le plus marqué après le déconfinement. Et puis pour conclure, je vais vous parler de la Chine, d'où est partie la pandémie. Cette année, c'est la seule grande économie en croissance, plus 1,9%, toujours selon le FMI. Et l'an prochain, la croissance est attendue là-bas à 8,2%, ce qui serait sa meilleure performance depuis près de 10 ans.
Merci Anne-Laure Jumet. L'OMC autorise l'Union européenne à prendre des mesures de rétorsion contre Washington pour ses aides à Boeing. L'Union européenne va pouvoir imposer des droits de douane sur 4 milliards d'importations en provenance des États-Unis. C'est un nouveau rebondissement dans ce long feuilleton commercial. Rappelons que l'an dernier, l'Organisation mondiale du commerce avait sanctionné les Européens pour leur soutien à Airbus. Aux États-Unis, les sénateurs continuent d'auditionner la juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême. La magistrate conservatrice est soumise à un feu roulant de questions et les élus démocrates vont la chercher sur les sujets les plus sensibles, Grégory Phillips.
Oui, depuis 9h ce matin, Amy Coney Barrett répond aux questions de ces 22 sénateurs démocrates et républicains qui composent la commission judiciaire. Certains sont en visioconférence par mesure de précaution sanitaire, d'autres au Capitole. Les élus républicains ne tarissent pas d'éloges sur cette magistrate de 48 ans, conservatrice, appelée à remplacer Ruth Bader Ginsburg. Mais les démocrates, en revanche, la presse de questions, notamment sur l'arrêt Roe versus Wade qui, en 1973, avait légalisé l'avortement aux États-Unis.
Do you agree with Justice Scalia's view that Roe?
Ici, la sénatrice démocrate de Californie, Diane Feinstein. Êtes-vous d'accord avec le juge Scalia, aujourd'hui décédé, qui disait que cet arrêt était une mauvaise décision? Amy Coney Barrett répond. Je comprends très bien pourquoi vous me posez cette question, mais encore une fois, je ne viens pas ici avec un agenda, un programme, avec la volonté de renverser cet arrêt. Mon seul agenda, c'est d'appliquer la loi et de juger les cas les uns après les autres. Puis Amy Coney Barrett jure qu'elle n'a pas pris d'engagement avec la Maison-Blanche, ni sur l'interruption volontaire de grossesse, ni sur Obamacare. Les républicains de cette commission veulent aller vite et peut-être voter la nomination dès la semaine prochaine pour la transmettre au Sénat et faire en sorte que cette nomination d'une juge conservatrice soit actée avant l'élection présidentielle du 3 novembre.
Grégory Phillips en direct de Washington. Une attaque meurtrière la nuit dernière dans le centre du Mali. Elle s'est produite près de la frontière avec le Burkina Faso. Au moins 12 militaires maliens ont été tués et selon les autorités, au moins 9 djihadistes. Des faits qui viennent rappeler que le Mali est loin d'être entièrement pacifié. Le nouveau pouvoir en place n'est pas au bout de sa mission, Nathanaël Charbonnier.
Si on peut imaginer que le calme est temporairement revenu dans le Nord Mali avec la libération il y a quelques jours de plus de 200 djihadistes contre des otages dont la française Sophie Pétronin, il est clair qu'en revanche tout reste à faire dans le centre du pays. Déjà la semaine dernière, des incidents se sont déroulés dans la même région, c'est là que sévit depuis 2015 un groupe terroriste mené par Amadou Koufa, un prédicateur peul. Les affrontements sont d'origine communautaire, entre d'un côté les peuls, des éleveurs nomades, et de l'autre les dogons, sédentaires et vivant de l'agriculture, à qui l'on doit la création de milices censées protéger la population. Les attaques sont généralement très violentes et débordent souvent sur le nord du Burkina voisin. La semaine dernière, alors que se poursuivaient les négociations pour la libération des otages, une série d'enlèvements avait eu lieu toujours dans le centre du Mali. Il y a deux jours, l'attaque d'un village a fait au moins 6 victimes parmi les habitants encore dans le même secteur. Après la paix dans le nord, c'est dans le centre que le nouveau pouvoir malien doit se mobiliser afin d'y ramener là aussi le calme et la paix.
Malgré la tentative d'établir un cessez-le-feu, les combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais s'intensifient dans le Haut-Karabakh. Et des deux côtés, les populations civiles sont toujours prises pour cible par les bombardements. La Croix-Rouge internationale craint une crise humanitaire dans la région. Elle estime que des centaines de milliers de personnes sont actuellement concernées par ce conflit. En Pologne, plusieurs milliers d'agriculteurs ont défilé aujourd'hui dans les rues de Varsovie. Ils s'opposent à une loi examinée en ce moment au Sénat sur la protection des animaux. Elle prévoit notamment l'interdiction de l'élevage d'animaux pour leur fourrure et des restrictions sur l'abattage rituel. Un texte qui divise même la coalition au pouvoir. Reportage à Varsovie de Sarah Bakaloglou.
Accompagnée par le bruit des sirènes et des pétards, survolée par des hélicoptères, plusieurs milliers de Polonais sont venus manifester à Varsovie. Pour Mateusz, la limitation de l'abattage rituel au seul marché national est difficile à accepter.
Je suis employé d'une écloserie pour de la volaille destinée à des abattoirs qui sont consacrés à l'abattage rituel pour l'exportation, ce qui leur fait gagner beaucoup d'argent. Si ça s'arrête, de nombreuses familles perdront leur emploi et nous devrons peut-être fermer notre écloserie.
La Pologne est également un des trois premiers producteurs de fourrure au monde, alors la colère contre Jarosław Kaczyński, le puissant chef du parti Droit et Justice au pouvoir qui a porté cette loi, est grande et la promesse de compensation financière ne convainc pas Christophe, un tout nouveau éleveur de bétail.
Ce ne sont que des jeux politiques. Nous ne la prenons pas au sérieux, nous n'avons aucune confiance en ce gouvernement. Notre confiance est tombée même en dessous de zéro et nous n'arrêterons pas de manifester.
Cette loi n'a pas seulement fait trembler les campagnes bases électorales du parti Droit et Justice, mais aussi la coalition au pouvoir, ce qui a obligé Kaczyński à entrer au gouvernement pour calmer les tensions.
Sarah Bakaloglu, correspondante de RFI et France Culture en Pologne. Un temps souvent perturbé demain et assez frais. Les averses seront fréquentes et parfois orageuses dans le sud-ouest. Des pays de Loire à l'Alsace, des éclaircies parviendront tout de même à se développer dans l'après-midi. Le ciel sera variable dans le sud-est. Les minimales seront comprises entre 0 et 13 degrés. Au meilleur de la journée, il fera 11 à 14 degrés, jusqu'à 20 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.